Ce soir, on va continuer notre thème depuis un bon moment. Depuis un bon moment, on a pris comme thème l'âme, le corps et l'esprit. Et on a pris comme texte, comme référence, Ézéchiel 37. Et puis on a énormément médité sur l'esprit. Et bien là, depuis la dernière fois, donc on réfléchit sur l'âme. D'accord ? Alors, l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme ? Alors, d'abord, on va commencer. Voilà. Alors, il y a ce verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on vient au Seigneur, effectivement, il nous donne une nouvelle vie. Et dans un premier temps, on vit quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est vraiment de l'ordre du surnaturel. Ensuite, on retrouve dans notre vie des soucis, des problèmes, des souffrances, des choses qui se passent en nous, qui nous font mal. Et on se dit, mais je ne comprends pas. Ce verset dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ça se fait que j'ai encore des hauts et des bas? Comment ça se fait que je lutte avec certaines choses? Et donc, après avoir lu ce verset, on va plus parler de l'âme. Donc, effectivement, on est des nouvelles créatures. Ça, c'est la parole qui le dit. Et en fait, c'est l'esprit. L'esprit qui vient habiter en nous. Et voilà, la parole dit, mais le moment arrive. Et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide du Saint-Esprit, comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon, pour adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Eh bien, quand on vient au Seigneur, on vit une nouvelle naissance. C'est notre esprit qui est né, puisque notre esprit est mort sans Christ. Donc, notre esprit prend vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, ce qui fait qu'on est vraiment une nouvelle créature. Mais, il y a l'âme. Alors, la Bible nous dit qu'on est esprit, corps et âme. Avec le corps, on n'a pas de soucis, on le voit, on le sent, on est dedans, on connaît, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Avec l'esprit, on vient de voir que on est mort si on n'a pas l'esprit de Dieu. Quand on reçoit l'esprit de Dieu, eh bien, on est vivant par l'esprit. Mais notre âme, qu'est-ce qui se passe dans notre âme? Alors, l'âme, c'est quoi? L'âme, dans l'homme, est la vie animée ou la place, le siège, des sens, des désirs, des affections et des appétits. Alors, l'âme en nous, c'est quoi? C'est tout ce que nous ressentons, tout ce que nous pensons. Là, il y a quelques mots. Il y a joie, colère, dégoût, confiance, tristesse, surprise, honte, peur. Tout ça, ça se passe dans notre âme. On ressent les choses dans notre âme. On souffre des choses dans notre âme. On se réjouit dans notre âme. Et tout ça, ça se passe dans notre âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre esprit, donc on a dit, on a l'esprit de Dieu, donc on est une nouvelle créature. Mais notre âme, il est toujours le même, c'est-à-dire qu'on ressent les choses de la même manière, on vit les choses et il y a plein de choses qui se passent en nous. Et du coup, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe et comment regarder ces choses-là. Et on pense que la parole de Dieu se contredit, mais pas du tout. Donc, alors on va parler de cette âme que nous avons. Alors, la parole dit avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Une autre version qui dit, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Alors, le cœur, c'est aussi l'âme. Hein? Parfois, on mélange le cœur avec l'esprit, mais en fait, le cœur, c'est l'âme. Eh bien, c'est dans l'âme qu'on ressent toutes ces choses-là, toute notre vie, tout ce qui fait mal, tout ce qui nous réjouit, tout ce que nous vivons, on le ressent dans l'âme. Et dans l'âme, donc, la parole dit qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'âme, eh bien, ça va avoir un effet sur nous. Et en fait, comme c'est le siège de nos sentiments, nos pensées, ce que nous ressentons, eh bien, notre vie est pratiquement dirigée par notre âme, souvent. Alors, comme l'âme ou le cœur est le siège de ce que nous ressentons et ce que nous vivons, eh bien, évidemment, ça va avoir un effet sur nous, sur notre vie, ce que nous ressentons. Alors, si notre âme, voilà, c'est la source, il y a une source, eh bien, faire attention à la source, qu'est-ce qui en sort? Eh bien, on a vu la fois dernière ce verset qu'on trouve dans Ézéchiel 37, pour celles qui n'ont pas suivi avec nous cette étude, les corps qui étaient morts dans la vallée sont revenus à la vie parce que Dieu a mis un esprit en eux et les a ressuscités dans leur corps. Mais une fois qu'ils étaient debout, ces personnes-là, eh bien, c'est bizarre parce qu'ils étaient tout nouveaux, ils étaient revenus à la vie, ils avaient l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils se sont réjouis? Est-ce qu'ils ont dit, bah ouais, c'est super, voilà, on est des nouvelles créatures? Non, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est Dieu qui parle, il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, ils disent, nos ossements sont desséchés. Notre espoir est évanoui, nous sommes perdus. Qui dit « Notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. » Et là, on voit vraiment un exemple de l'âme qui s'exprime, qui n'a pas du tout oublié ce qu'elle a vécu dans le passé. En fait, ils sont des nouvelles créatures, mais dans l'âme, ils sentaient qu'il n'y avait plus d'espoir, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils avaient vécu une guerre. Ils avaient combattu, ils avaient vu des choses atroces, ils ont vécu des choses vraiment traumatisantes et terribles. Et ils avaient encore toutes ces images qui restaient à eux, tout ce qu'ils avaient vécu. On peut imaginer qu'ils ont vu des corps déchiquetés, qu'ils ont vu leurs amis mourir, etc. Enfin, là, on ne va pas aller dans les détails, mais on peut imaginer que ça devait être vraiment atroce. Donc, là, il y a un verset qui dit vraiment, le Seigneur avait vu que dans leur âme, en fait, ils n'avaient plus d'espoir. Ils ne voyaient plus du tout le fait qu'ils étaient, ils avaient un nouveau corps et qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Ce qu'ils ressentaient le plus fort, c'est qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils souffraient dans leur âme et c'était atroce. Eh bien, c'est formidable de voir ça parce que le Seigneur laisse dans la Bible tout ce qu'on a besoin pour notre vie. Et vraiment, c'est des choses qu'on a pu vivre. Et dans notre âme, donc, reste la mémoire de tout ce qu'on a pu vivre. Et le Seigneur ne nous fait pas de reproches. Hein. Il sait ce qu'on a vécu et il comprend et Ensuite, on va voir que dans l'âme, parfois l'esprit vient parler à l'âme. Et dans les psaumes, David, souvent, on voit qu'il parle à son âme, ou son esprit parle à son âme. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parfois, l'esprit nous rappelle qui nous sommes, nous rappelle qui Dieu est pour nous, pour vraiment faire cette œuvre dans l'âme qui souffre. On sait que David a souffert beaucoup. Hein, il était persécuté, il était vraiment dans des situations terribles. Et on sait qu'il a souffert dans son âme. Il se rappelait de ce qu'il avait vécu. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit? Alors, est-ce que la parole nous dit, eh bien, bon, là, on va lire, je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Alors, la parole nous dit, en fait, on peut choisir de vivre. Ça paraît curieux parce que des fois on est tellement abattu et pour cause, on peut avoir des soucis, des problèmes ou avoir encore pire, des choses qui ont été traumatisantes et qui sont vraiment des choses qui laissent des traces vraiment très très profondes et qui sont là et qui emmènent en nous un état ou une ambiance de mort. C'est comme si on était mort, on vivait dans la mort. Eh bien, la parole nous dit en fait que c'est à nous de choisir la vie. C'est à nous de dire, je choisis la vie afin que je vive, moi et tous ceux qui m'entourent, ma descendance, ma famille, mais aussi tous ceux qui m'entourent. Et en choisissant la vie, le Seigneur nous dit que c'est notre responsabilité de choisir la vie et de vraiment regarder notre vie d'une autre façon que dans ce regard de mort. Alors, choisir la vie. Simone Pacaud, qui a écrit des livres vraiment, vraiment formidables sur ce thème-là, nous dit. Il est à la portée de chacun de choisir de se mettre en route sur un chemin de vie, s'établir dans la certitude que Christ vient remettre la vie en route là où elle s'est arrêtée, croire de tout son être, qu'une forme de retour à la vie va pouvoir se faire, renoncer à toute connivence avec le chemin de destruction. Ensuite, choisir de ne pas rester dans la forme de mort qui est en soi, même si à ce moment, on n'a aucune idée de la façon dont on va pouvoir retrouver la vie. Montre qu'une direction reste toujours possible. À ce moment-là, on ne choisit pas une vie éclatante et joyeuse, on choisit un chemin qui mène à la vie. Eh bien, c'est un chemin qui amène à la vie parce que, eh bien, ces souffrances, ces blessures, des choses qu'on a vécues sont encore là et qui nous font mal. Et donc, c'est un chemin de vie. Parfois, on aimerait être libéré comme ça. Des fois, ça arrive. Des fois, il y a des blessures, des souffrances qui s'en vont comme ça. Et ça, je l'ai vu et c'est extraordinaire. D'autres fois, ça prend plus de temps parce que les choses, les traces, les souffrances sont tellement profondes que ça va se faire dans le temps. Et, mais ça n'empêche que le choix, c'est le choix de la vie. Et une fois qu'on a choisi la vie, on prend ce chemin de vie et on va vers la vie. Même si on a encore des souffrances et des difficultés, mais on choisit le chemin qui amène à la vie. Bon, il se peut qu'on se réjouit de ça, on éclate de joie, etc. Mais Parfois, non. C'est juste une décision qu'on a prise de choisir la vie, choisir de ne plus se laisser envahir, emmener par ce sentiment de mort qui est sur nous parce qu'on a vécu des choses difficiles. Eh bien, c'est ce choix-là, elle le traduit très très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un chemin qui mène à la vie. C'est à nous de faire ce choix-là. Le Seigneur ne nous l'impose pas, mais c'est à nous de le faire. Alors, choisir la vie, c'est quoi en fait? Eh bien, Geneviève Aurose, c'est une psychologue chrétienne. Je trouve qu'elle l'a mis d'une façon très simple. C'est à cause de, malgré et grâce à. Alors, d'abord, à cause de, c'est quoi? À cause de, c'est de faire le bilan. Faire un bilan de notre vie, de ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui a fait qu'on est dans l'état où on est aujourd'hui? Eh bien, on fait ce bilan-là toute seule ou avec d'autres qui nous aident à cheminer dans ce niveau-là. Et on fait un bilan pour voir exactement, clairement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qui c'est qui était à l'origine de toutes ces souffrances ces choses. Et ça, c'est le départ. Après, faire le bilan, c'est donc à cause de. À cause de. Ceci ou cela, je souffre. À cause de ceci ou cela, je suis malade. À cause de ceci et cela, je suis dans cet état-là. À cause de ceci ou cela, je suis rendue aujourd'hui à avoir la vie que j'ai. Alors ensuite, malgré. Malgré, c'est quoi? Malgré, c'est tenir compte de la situation qu'on a vécue. Alors, malgré, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai dû apprendre par tout ce que j'ai vécu? C'est hors de question d'appeler le mal bien. Le mal, c'est mal. La souffrance, c'est la souffrance. Et on ne l'appelle pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai appris dans ce que j'ai vécu, dans ce mal, dans ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre malgré tout ce que j'ai pu vivre? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre de tout ça? Et puis grâce à, alors ça c'est surprenant, mais au travers des difficultés, grâce à, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec tout ce que j'ai vécu, malgré tout, je peux en sortir quelque chose qui vient m'enrichir, qui fait que maintenant ma vie peut avoir une autre direction, qui peut être une vie remplie de plénitude, de choses qui sont positives, qui peuvent vraiment nous emmener à des choses plus grandes. Parce qu'on a vécu ces choses difficiles. Et ça, on va voir ensuite. Alors, à cause d'eux, on a dit qu'à cause d'eux, alors, à cause d'eux, les sources sont en général, enfin, en gros, trois. À cause du péché dans le monde. On sait que le monde est déchu, qu'il y a le péché. Qui a fait que c'est le monde ne tourne pas comme il devrait, donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas à cause du monde. Et le péché est dans tout dans le monde. À cause des autres, celui-là, on sait très bien. C'est pas difficile celui-là. À cause des autres, à cause de ce qu'ils m'ont fait, à cause de ce qu'ils m'ont dit, à cause de. Etc. Eh bien, on sait très bien qu'on souffre énormément à cause des autres. Alors, à cause de soi-même, parce qu'on peut aussi prendre des mauvaises décisions, on peut faire des choses qui viennent nous détruire, nous emmener dans des chemins de mort, hein, parce qu'on parle de la vie et la mort. Eh bien, c'est aussi des choses que nous, on peut faire, qui nous emmènent dans ce chemin de mort. Alors, à cause d'eux, eh bien, à cause de plein de choses qui nous arrivent, ça peut être la maladie, ça peut être des accidents, ça peut être des choses quand on est enfant, qui sont des choses qui nous ont traumatisés, laissés seuls, nous ont marqués. Ça peut être les décisions de gouvernement qui font que notre pays, notre monde ne tourne pas rond et qu'il y a des décisions qui détruisent notre terre, le fonctionnement de plein de choses. Donc à cause d'eux, c'est pas très difficile à faire le bilan, hein? Et bon, à cause d'eux, on peut trouver plein de raisons pourquoi on souffre, des raisons pourquoi on a des ennuis. Et on a tous eu des ennuis, des souffrances et des problèmes, plus ou moins selon, mais on a toutes eu, hein. Et il se peut, je ne vous souhaite pas des. Hein, mais il se peut que dans l'avenir, vous aurez encore des difficultés. Eh bien, voilà, c'est la vie, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alors, malgré, qu'est-ce que j'ai appris? Alors, j'ai essayé de voir, mais en fait, c'est un dicton anglais. Voilà, que je trouve mignon comme tout. Alors, c'est la petite chenille qui dit, juste quand la chenille a pensé que le monde était fini, il est devenu papillon. C'est-à-dire que la souffrance d'avoir été chenille, dans un premier temps, ça l'est, mais quand il y a ce temps que la chenille devient papillon, c'est douloureux, c'est un temps où il faut bouger, se mettre, sortir de ce qu'il est pour devenir papillon. Donc, il peut arriver un moment où on est dans un sentiment de mort, parce que à cause de ce qu'on vit, eh bien, ça a un tel effet sur nous qu'on a l'impression de vivre des choses, la mort, quoi, des choses difficiles. Mais malgré ce qu'on peut vivre, eh bien, à un moment donné, quand on a choisi la vie, eh bien, voilà, on arrive. On arrive à un temps où on va être libéré, où on va sortir de ce carcan, hein, parce qu'au départ, la chenille est très bien, mais quand elle est dans cette phase où elle va devenir papillon, il se passe plein de choses qui font mal. Eh bien, pareil avec nous, quand on choisit la vie, eh bien, dans le cheminement, il y a des moments aussi qui sont difficiles à vivre. Mais il faut pas oublier. Malgré tout ce qu'on a pu vivre, on peut apprendre de cela et devenir papillon, c'est-à-dire être libéré vraiment de ce qu'on a pu vivre. C'est mignon, hein? Alors, autrement, on peut aussi bâtir quelque chose de beau avec des pierres qui entravent le chemin. C'est vrai qu'on aimerait mieux ne pas avoir des ennuis. On aimerait mieux ne pas souffrir, on aimerait mieux être sans tout ça. Mais parfois, avec les pierres qui sont sur notre route, eh bien, on peut arriver à construire quelque chose de beau même. Pas parce que ce qui nous est arrivé est beau, pas du tout. C'est pas beau du tout, c'est de la souffrance, c'est des choses qui sont difficiles, qui sont pas souhaitables. Mais malgré tout ce qu'on a pu vivre, eh bien, on peut en tirer quelque chose et même arriver à quelque chose de bon. Pour cela, pour ce qu'on vient de voir, j'ai choisi de un petit peu regarder la vie d'Esther. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Bible, on trouve, pardon, on trouve ce processus dans la vie de personnes dans la Bible. Alors, j'ai choisi Esther, hein, parce que je trouve que c'est vraiment très très fort comme exemple de ce qu'on peut voir. Alors, Esther, hein, d'abord, elle a vécu la guerre. C'est déjà traumatisant. Elle était été emmenée en exil. Donc, elle était prisonnière quand elle était petite. Elle était orpheline puisque son papa et sa maman sont morts. Donc, elle accumule hein, déjà trois traumatismes qui sont vraiment profonds et qui sont vraiment, vraiment difficiles. On peut voir que vraiment, elle a eu un départ qui était vraiment difficile. Et la guerre, c'est déjà traumatisant dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut vivre. Être emmené en exil, changer de pays, changer de langue, changer tout, c'est difficile. Être orpheline aussi, c'est difficile. La chose qui lui est arrivée, qui est vraiment, vraiment extraordinaire et qui est très important, c'est que Esther, elle a été adoptée par son oncle. Son oncle l'a adoptée quand elle était toute petite et il l'a vraiment aimée. Et Esther, elle a grandi avec l'amour. Et ça, pour des bases, c'est des bases. Quand on a déjà vécu l'amour, c'est vraiment, vraiment des bonnes bases malgré tout ce qu'on peut vivre. Quand il n'y a pas ces bases-là, parce qu'on n'a pas reçu de nos parents ou des personnes autour de nous l'amour qu'on a besoin pour grandir et vivre, eh bien, le Seigneur nous dit quand même, dans le psaume 27, il dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est David qui dit ça à propos de Dieu. Que même si on est abandonné, même si nos parents, ceux qui devaient prendre soin de nous et qui auraient dû être là pour nous ont abandonné, eh bien Dieu ne n'oubliez pas ça, parce que c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on puisse être convaincu de cet amour de Dieu. Et c'est avec l'amour de Dieu qu'on peut grandir, qu'on peut avancer. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu d'autre? Parce que c'est peut-être pas assez, ça. Hein? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors, Esther, alors, ce soir, je ne raconte pas l'histoire d'Esther en tout, complètement, parce que ça, vous allez le faire chez vous, hein, si vous ne connaissez pas. Mais le roi du pays, donc, a été très, très vexé que sa femme, la reine, n'est pas venue se montrer à tous ses invités. Et il était tellement, tellement vexé qu'il a dit: ben voilà, il faut une autre reine, quoi. Ces jours-là, hein, ça se passait comme ça. C'était des rois qui avaient droit à vie et de mort sur tous ceux qui passaient. Et s'est mis en fureur. C'était même pas une colère, hein, c'était fureur. Et donc, cette reine qui a osé contredire le roi, eh bien, elle était mise de côté. Et le roi a dit: maintenant, il m'en faut une autre. Allez chercher partout des jolies filles, vous me les emmenez, vous les préparez et j'en choisirai une autre. Voilà, c'est ça. Donc, dans les rues, bon, il était connu qu'Esther était magnifique. C'était une femme magnifique, une jeune femme magnifique, et elle avait été prise parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. C'était pas: est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux devenir reine? Est-ce que vous voulez venir voir le roi? Pas du tout comme ça. C'était: tu viens, on t'emmène. Et ils n'avaient rien à dire. Donc, ces femmes qui étaient prises de leur foyer, qui étaient prises, c'était des soldats qui étaient partis partout dans le pays choisir des femmes. Donc, un grand nombre de femmes, jolies femmes, et entre elles était Esther. Donc, Esther était partie avec toutes les autres femmes et elle est entrée dans le harem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est un harem. Alors, pour aller court, c'est une prison. C'est une prison parce que les filles n'ont pas le droit de sortir. Ils sont là que si le roi les demande, au bon plaisir du roi, mais elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit d'avoir un autre mari, choisir un autre mari, faire autre chose, pas du tout. Elles sont enfermées dans un harem. Ils ont voilà, plein de choses dans le fait où on prend soin d'elles. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pour se préparer à voir le roi, ils avaient un temps de préparation de 1 an. Hein, c'est tout. C'est incroyable. 1 an de préparation pour se présenter au roi. Alors, vous savez, il n'y avait que des femmes, jolies filles dedans, cette arène. Elles étaient en compétition, hein, entre elles, parce que celle qui devenait roi avait quand même des privilèges. Hein, quand même, elle avait un peu plus de privilèges et elle pouvait sortir, elle pouvait faire beaucoup plus que les autres, puisque les autres restaient dans l'arène. D'ailleurs, une fois qu'ils étaient dedans, ils n'avaient plus le droit de sortir. Donc, ils étaient dedans à vie. Donc, l'ambiance de compétition, ça devait être terrible. Les méchancetés entre elles, il paraît que c'était alors atroce parce que bah, elles voulaient être choisies du roi, évidemment. Donc, elles avaient toutes des hommes, des eunuques, qui prenaient soin d'elles, qui leur disaient ce qu'il fallait faire. Eh bien, du coup, ils avaient des soins. Alors, moi, j'aime bien les soins. Moi, si vous avez un cadeau un jour à faire, ou peut-être quand vous l'avez fait, soin d'une heure, déjà, c'est super. 2 heures, 3 heures, mais 1 an! C'est juste terrible, quoi. 1 an! 1 an! Donc, 6 mois, 6 mois, c'était avec de la myrrhe. Alors, ils avaient de la myrrhe. Hein. Il y avait de la crème, l'huile, le savon, tout à la myrrhe. Hein. Les bains, la myrrhe, l'huile, tout à la myrhe partout pendant 6 mois. Donc, ils étaient, mais alors, du matin au soir, bichonnés, nanana. Au bout de quelques temps, je crois que j'arrive. Non? Pourtant, on aime ça. Mais 6 mois de myrrhe, ça devait être terrible. Mais elles étaient soignées à la myrrhe. Hein, beauté, myrrhe, partout. Et après, 6 mois, alors 6 mois de d'autres soins, de cosmétiques, d'aromates et tout ce qu'on veut. Et pareil, la peau, les bains, tout, les crèmes, l'huile, nanana, tout, ils étaient couverts de ce traitement-là, tout ça pour se préparer à voir le roi une fois. Et le roi, il y en avait des centaines, hein, c'était pas deux, trois. Ils pouvaient passer à côté, même pas les remarquer, hein, après tout ça, et choisir quelqu'un d'autre. Donc, tout ce temps-là, Esther vivait cette ambiance-là. Je ne sais pas si vous, on peut imaginer ce que ça peut être. Et donc, elle a vécu dans un harem comme ça pendant 1 an. Et pendant ce temps-là, son oncle, qui n'avait pas le droit d'entrer dedans, il allait essayer de la voir parce qu'il était inquiet, évidemment. Il voulait savoir qu'est-ce qui lui arrivait, qu'est-ce qui se passait, mais bon, il n'avait pas le droit de la voir. Alors, si ce n'était pas assez, tout ça, c'est qu'elle se préparait quand même à un mariage qui était non choisi. Hein? Et les rois de l'époque, enfin, il y en a aujourd'hui, hein, des dictateurs, mais à l'époque, c'était quelque chose. Hein? Il avait le droit. La vie à la mort hein, de tous ceux qui passaient, enfin c'était quelque chose. Donc elle ne connaissait pas, elle se préparait, elle pouvait être choisie ou pas, Et mais tout ça, sachant qu'elle resterait dedans toute sa vie, à vie, qu'elle était choisie ou pas. Eh bien, c'était pas vraiment quelque chose de si agréable que ça. Eh bien, on continue. Donc, le roi l'a choisie parce qu'elle était quand même magnifique. Et parce qu'il y avait quand même autre chose qui se passait dans sa vie. Eh bien, elle s'est mariée donc, c'était un honneur vraiment que le roi l'ait choisie comme reine. Hein. Mais ce roi, hein, comme on l'avait tout à l'heure, il était colérique. Hein. Je pense il se mettait pas en colère comme on peut faire des fois. Non, c'était vraiment fureur, quoi. Hein. Tout ce qui se passait par là et c'était la mort partout. Enfin, c'était quelque chose, les rois de l'époque. Donc, elle était mariée à un homme comme ça ne devait pas être simple. Hein. Et de toute façon, elle pouvait le voir que si c'est lui qui demandait à la voir ou si elle demandait à le voir, mais alors il avait le droit à vie et mort s'il n'avait pas envie de la voir. Ça rajoute hein, l'ambiance. Hein. Donc voilà, donc un mari comme ça. Et ensuite, dans le royaume, si vous lisez l'histoire, puisque je vais pas aller toute la lire. Il y avait un complot, il y avait quelque chose qui se passait en dessous pour faire mourir les Juifs. Et Esther était juive, alors qu'elle n'a dit à personne, hein, mais elle était juive et le roi ne savait pas. Et le roi avait décidé que oui, d'accord, on va tuer tous ces gens-là. Donc, elle était victime de racisme, puisque les Juifs. Maintenant, ils avaient une condamnation de mort sur eux. Donc, elle était condamnée à mort. Bon, alors là, si on accumule tout ce qu'elle a pu vivre, on peut voir combien sa vie aurait pu vraiment être un état de délabrement, de souffrance, d'épreuves terribles. Eh bien, avec tout ça, on va voir ensuite qu'est-ce qu'elle en a fait. La condamnation à mort est arrivée, Mardochée a pu voir Esther pour lui dire. Esther, elle savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Bon, elle écoutait son oncle parce qu'elle savait qu'il était bon, voilà, de bons conseils et qu'il aimait. Et son oncle lui dit, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté. Alors l'oncle lui dit, écoute, tu as vécu plein de choses, tu arrives là à être reine, mais peut-être avec tout ce que tu as vécu, ben, peut-être qu'il y a un plan dans tout ça, peut-être. Est-ce que ça peut être pour quelque chose comme ça? Est-ce qu'il peut avoir quelque chose derrière tout ce qu'on peut vivre. Est-ce qu'il peut avoir comme un fil conducteur quelque part dont nous, on ne se rend même pas compte, on vit notre vie, on pense que, ben voilà, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec tout ce qu'on nous fait, avec tout ce qu'on fait soi-même, avec tout ce qui nous arrive, mais on ne pense pas que tout ce qui nous arrive peut contribuer à quelque chose de plus grand. Et donc Mardochée lui dit à Esther, bah Esther, peut-être que tout ce que tu as vécu finalement, peut-être que Dieu a un plan de tout ça. C'est pas qu'il a un plan que tu souffres, c'est pas un plan pour que tu vis des choses atroces, mais à cause des choses que tu as vécues, eh bien maintenant, tu as une position, tu es devenu quelqu'un, tu as maintenant développé certains côtés de ton âme qui fait que maintenant tu peux peut-être faire autre chose, mais peut-être que Dieu a quelque chose là-dedans. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça peut être vraiment une parole pour nous. Parce que c'est pas que les choses qu'on vit qui sont terribles. son bien, mais au travers de tout ce qu'on a pu vivre, eh bien, ça va contribuer à nous enrichir peut-être de patience, d'empathie, de compassion, d'amour pour les autres. Voilà, ça peut être plein de choses qui se développent en nous, qui fait qu'un jour, on va pouvoir faire quelque chose parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Esther, du coup, elle n'avait pas pensé à ça. Elle était perdue. Elle a dit, si vraiment c'est à moi de faire quelque chose, je ne peux pas faire toute seule. Il me faut un soutien. Et là, on est vraiment conscient de qu'est-ce qu'est l'Église. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est appartenir à un corps, une armée, une famille. On voit tout au long de la Bible que c'est des images que la Bible prend pour nous montrer des facettes différentes de ce qu'est l'Église. L'Église est montrée comme une famille, parce qu'une famille entourée des plus âgés, des plus jeunes, mais entourée des personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Donc l'Église, c'est ça aussi, entourée de personnes qui nous soutiennent, qui sont plus anciennes dans la foi peut-être, mais aussi de ceux qui arrivent et qui découvrent la foi comme des petits. Eh bien, l'Église, c'est un corps. Un corps parce que aussi on a besoin de chaque membre, on a besoin de chaque petit doigt, on a besoin du nez, on a besoin des oreilles, on a besoin de tout. Eh bien, on fait partie du corps et on a toute une place dans ce corps et on est toute importante et on est toute précieuse dans ce corps parce que le corps marche bien quand tout est là. Eh bien, c'est l'image de ce qu'est l'Église et c'est notre place dans le corps. C'est aussi une image d'armée, parce qu'armée, ça parle d'action, c'est l'offensive, c'est aussi aller conquérir. Eh bien, l'Église, c'est ça aussi. Et l'Église, c'est un corps, comme j'ai dit tout à l'heure, où on trouve sa place parce qu'on fait partie du corps. Quelque part, peut-être qu'on est l'œil, peut-être qu'on est la jambe, je ne sais pas. Mais on fait partie de ce corps, on est importante, mais toutes, on fait partie de ce corps. Et Esther s'est rendue compte que ce qu'elle avait à faire, en fait, elle ne pouvait pas le faire toute seule, il fallait qu'elle fasse appel au corps, à l'armée, à la famille de Dieu, le soutien qu'elle avait besoin. Donc elle a dit, mais il me faut de la prière, il me faut un soutien des autres pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Parce que si je regarde cette situation, c'est juste pas possible, on est condamné à mort et il n'y a pas de solution, on ne sait pas quoi faire. Donc il me faut la prière. Et donc l'Église, c'est aussi le soutien quand on a des moments difficiles, quand on traverse des moments où on doit prendre des décisions, quand on est dans ce cheminement qui parfois est difficile, on a besoin des autres. Il y a des choses qu'on fait seul, mais on a besoin des autres. C'est pour ça que Dieu nous met dans une église, dans le corps, dans une armée et dans une famille. Donc la réaction qu'elle a eue, c'était de dire à tout le monde qui prie, parce que j'ai trop besoin, quoi, parce que je vois pas du tout comment ça se peut autrement faire. Donc voilà. Donc c'est le soutien. Esther, elle a trouvé dans ce qu'elle a vécu un sens à sa vie. C'est-à-dire qu'elle ne le voyait pas, ce sens-là, quand elle le vivait, mais quand elle est arrivée, à ce moment-là, elle a compris que tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle avait vécu tout ça, elle pouvait faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle avait vécu tout ça, elle a pu venir en aide et sauver son peuple de la mort. C'était un sens à sa vie qui était extraordinaire, qu'elle n'a pas vu tout de suite, mais qu'elle a vu à la fin. De même avec nous, on a aussi des choses qui nous attendent. On est toutes sur ce chemin-là avec notre vie qu'on a eue, chacune, hein, chacune différente. Il y en a qui ont eu des choses difficiles, d'autres un peu plus, d'autres traumatisantes. Voilà, on a vécu des choses toutes ici. Eh bien, toutes, on a un plan dans notre vie. On a devant nous quelque chose que le Seigneur a réservé pour nous. Et tout ce qu'on peut vivre, mes sœurs, eh bien, va contribuer à nous façonner. Ça va continuer à nous transformer. Pas parce que c'est des choses bien, mais parce que ces choses-là vont développer en nous certaines choses, certains côtés de notre tempérament, de notre vécu, de notre cœur, qui vont faire qu'à un moment donné, on va pouvoir faire des choses que le Seigneur a réservées pour nous, chacune. Chacune entre nous, on a des choses qui sont préparées pour nous. Eh bien, ce cheminement-là, le Seigneur qui voit toutes choses, il voit devant, il sait ce qu'il y a devant nous, on ne le voit pas. Mais, ayons confiance que dans ce cheminement, le Seigneur prépare pour nous des choses extraordinaires. C'était l'histoire d'Esther que je trouve extraordinaire. Alors, il y a un livre d'Alain Samson qui dit, enfin le titre est « La vie est injuste, et alors ?» Ça paraît choquant, hein? Ça paraît choquant. Eh bien, pourquoi il dit ça? Eh bien, parce que, en fait, les scientifiques, ils ont fait des recherches pour savoir pourquoi il y a certaines personnes avec ce qu'ils ont vécu, arrivent à faire face. Donc, je vais lire, les gens n'ont pas la même réaction face au drame qu'ils vivent. Certains refusent de rester victimes et se reprennent en main, tandis que d'autres sont anéantis. Pourquoi? Il n'y a pas de différence entre les gens, seulement le choix fait la différence. Eh bien, dans les études qu'ils ont faites, ils ont trouvé que les personnes qui font des choix de vie, qui font le choix de rebondir, c'est-à-dire choisir la vie, ils ne sont pas plus intelligents, ils n'ont pas plus de neurones que d'autres, ils n'ont rien de plus que d'autres, ils n'ont rien scientifiquement plus que d'autres. La différence qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils ont choisi la vie. Ça, c'est scientifique. Mais alors, qu'est-ce que c'est biblique? C'est vraiment biblique parce que le verset qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur nous encourage de choisir la vie. Eh bien, dans ce verset qu'on a déjà lu la dernière fois, qui est très précieux, que je trouve magnifique. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, laquelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique pourquoi? Eh bien, parce que ça nous encourage à faire confiance, mais vraiment confiance à Dieu. Parce qu'en lui, on peut être vraiment convaincu qu'il y a cette puissance, on sait qu'il est puissant, hein, mais cette puissance pour nous, dans notre vie personnelle, pour chacun de vos vies. Hein, parce que s'il nous a appelés à cette espérance, c'est que dans cette espérance, il y a la richesse et la splendeur des biens destinés. Et ça, on n'est pas toujours conscient. Et on n'est pas toujours dans l'état où on peut dire, Seigneur, tu as des choses pour moi, moi je les veux. Hein? On ne les voit pas, on n'est pas conscient, mais de temps en temps, qu'est-ce que c'est bien de se rappeler ça? Parce que il y a des choses devant. Vous avez des vies, et ça j'en suis convaincue parce que le Seigneur me l'a montré, chacune d'entre vous, vous avez alors des choses devant vous qui sont extraordinaires. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me réjouit profondément. Je sais cela parce que le Seigneur m'a montré que chacune d'entre vous, si vous choisissez la vie, vous avez une vie devant vous où le Seigneur va pouvoir faire des choses extraordinaires. Moi, je peux que vous encourager à choisir la vie, mais vraiment. J'ai vu, quand le Seigneur m'a montré cela, des femmes qui venaient de tout horizon, avec des conditions différentes. Des femmes très, très différentes, qui avaient vécu des choses très, très différentes. Eh bien, chacune d'entre elles avait une destinée que le Seigneur avait préparée pour elles. Extraordinaire cela. C'est des yeux spirituels qu'il faut pour voir cela. Mais je vous encourage vraiment à méditer là-dessus. Parce que chacune d'entre vous, vous avez devant vous une vie que le Seigneur a préparée, qui est extraordinaire. C'est peut-être pas ce que vous pensez. C'est peut-être pas dans le domaine où vous préférez peut-être. C'est peut-être pas dans les lieux, etc., que vous pensez. Esther ne pensait pas un jour être reine. Je ne pense pas quand elle était orpheline, quand elle était victime de guerre, etc. Mais son destinée était extraordinaire. Nous, on va peut-être pas être reine. Hein, bon. Mais on a devant nous. Après, peut-être. Hein, mais voilà. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a préparé pour vous une destinée extraordinaire. Parce que, avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien, ça va contribuer à vous façonner. Vous allez choisir la vie, si vous la choisissez, et le Seigneur va vous accompagner pour arriver à cette découverte de ce qu'il a pour vous. Hein? Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, oui, j'en ai l'absolue certitude. Rien pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni les incertitudes, ni l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour de Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Rien ne peut nous séparer. Et ça, c'est important de se rappeler parce que parfois, on vit des moments qui sont vraiment déstabilisants. On vit des moments difficiles. Et voilà, on ne va pas vous dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, tout va bien, vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de difficultés. La Bible ne nous dit pas ça. Le Seigneur ne nous dit pas ça. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il reste avec nous. Hein? Car rien, mais rien ne peut nous séparer de son amour. Et on a besoin de son amour pour vivre. On a besoin de son amour pour faire face à tout ce qui peut nous arriver. Hein? Que ce soit des attaques de l'ordre surnaturel, que ce soit des créatures, des personnes, que ce soit dans le monde, que ce soit nos incertitudes, que ce soit quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Restez accrochés à l'amour de Dieu, parce que c'est ce qui va faire que vous allez tenir pour aller dans ce chemin de vie que le Seigneur a vraiment préparé pour nous. Alors, maintenant, c'est vraiment un chemin de vie. Mais on est libre. On est libre de la choisir ou pas. Et il y en a qui la choisissent. Et il y en a d'autres qui ne vont pas la choisir. C'est triste. C'est vraiment triste de ceux qui ne la choisissent pas. Pour X raisons, hein. On ne va pas les critiquer. Mais, en tout cas, ce que le Seigneur nous dit, choisissez la vie, mais choisissez quoi. Parce que vraiment, je vous dis que vous n'êtes pas au Seigneur que pour le ciel. Alors, oui, on a le ciel, c'est-à-dire que notre avenir est avec le Seigneur. Notre avenir, quand nous partons de cette terre, est d'être dans la présence de Dieu avec nos bien-aimés. Et ça, c'est extraordinaire. Mais aussi, pendant qu'on est sur cette terre, dans notre vie, on peut aussi vivre cette présence de Dieu. Il y aura la même présence dans le ciel, hein, mais on l'a ici-bas. Cette présence de Dieu avec nous qui fait qu'on va pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et il y en a des difficultés. Et il y en a des choses qui sont difficiles dans la vie. Mais le Seigneur dit qu'il vient avec nous, et qui nous accompagne et qui veut nous aider à surmonter. Vous êtes peut-être au point où vous faites le bilan à cause d'eux. Hein? Peut-être que vous êtes là. Hein? Oui, on a fait ci, on a vécu ça, etc., etc. Oui, c'est un temps où il faut rester pour bien, bien admettre tout ce qu'on a vécu. On ne va pas balayer tout ce qu'on a vécu et dire « Oh, ben, c'est pas grave ». Maintenant, non, ce qu'on a vécu est réel, il faut l'admettre, il ne faut pas aller dans le déni. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu, c'est le bilan que l'on fait. Et ça c'est important, quelquefois on le fait seul, quelquefois il nous faut quelqu'un à côté de nous pour nous aider à mettre des mots sur ces vécus-là, et ça peut prendre un certain temps. À cause d'eux, peut aussi prendre un certain temps. À cause d'eux, c'est de dire, mais qu'est-ce que j'ai appris? Mais qu'est-ce que j'en tire de tout ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui je suis devenue? Est-ce que j'ai tiré profit? Est-ce que j'ai appris quelque chose dans tout ce que j'ai vécu? Et ça aussi, ça peut prendre un certain temps. Et puis, à un moment donné, il y a grâce à, parce que j'ai vécu ceci ou cela. Eh bien, maintenant, je sais que à cause de tout ça, eh bien, le Seigneur me vient en aide et qu'il me donne un avenir, qu'il me donne un présent, un avenir qui est complètement changé parce que, malgré toutes ces choses-là, j'ai pu apprendre et changer. Eh bien, si on aborde cette question de l'âme, c'est parce que c'est très, très important. On n'est pas... Parfois, on va méditer sur l'esprit, beaucoup. L'esprit de Dieu, ce qu'il nous a donné, ce qui est le plus important, évidemment. Sans l'esprit de Dieu, on est mort. Spirituellement, on est mort. Mais l'âme, c'est avec l'âme aussi qu'on vit dans notre vie, jour après jour. Et dans notre âme, il y a des choses qu'on vit, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à mettre en pratique, il y a des bilans à faire, il y a des choses à changer, il y a des façons de voir qu'il faut changer pour qu'on puisse vraiment emprunter ce chemin de vie. Donc, cette question de l'âme, c'est quand même très, très important. On ne le met pas de côté comme ça, on ne le minimise pas. On vit avec notre âme. Et vous savez comme moi que notre âme, il a des hauts et des bas. Hein? Et les hormones, elles sont aussi pour quelque chose. Et en plus de tout le reste, et des fois, voilà, on est en haut, on est réjoui, après on est en bas, on ne sait même pas pourquoi. comment ça se fait, j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais je suis triste, voilà. Bon, c'est l'âme qui, pour une raison ou pour une autre, se met dans cet état-là. Donc, cet exercice de connaître notre âme, de nous connaître et de la connaître au travers de la parole de Dieu est très très important parce que c'est ce qui fait que jour après jour on va grandir, on va se connaître, on va grandir, on va tirer des leçons de ce qu'on vit. Et ça, c'est très important. Voilà. Eh bien, je vous encourage de vraiment choisir la vie et d'aller dans ce chemin de vie. Voilà. Seigneur, combien je vais te glorifier parce que dans ta parole, nous trouvons tout ce qu'on a besoin pour notre vie. Seigneur, merci tout d'abord pour ton esprit qui nous a donné la vie. Parce que, Seigneur, nous étions morts. Et parce que nous étions morts, nous ne te connaissions pas. Mais tu es venu dans notre vie, tu nous as donné la vie. Et Seigneur, c'est extraordinaire de savoir que nous sommes en vie spirituellement. Parce que avec l'esprit que tu nous donnes, nous pouvons te parler, nous pouvons te connaître, nous pouvons... Seigneur, te découvrir. Seigneur, merci pour l'esprit. Merci aussi pour notre âme qui quelquefois est si compliquée. Merci Seigneur de nous montrer dans ta parole que dans notre âme, on a besoin de choisir la vie. De ne pas vivre dans un esprit de mort parce qu'on a souffert, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Mais de choisir la vie, de choisir, Seigneur, cette attitude qui fait que, Seigneur, on te demande jour après jour de nous accompagner dans, Seigneur, notre vie personnelle. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais en nous. Pour, Seigneur, cette œuvre si profonde dans notre âme, dans laquelle, Seigneur, tu es en train de travailler. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait en nous. Merci pour ce que tu vas faire dans l'avenir, Seigneur. Nous te faisons confiance parce que nous savons que tu es un Dieu qui est extraordinaire. Et parce que tu n'es pas limité à ce qu'on peut vivre, tu n'es pas limité aux circonstances. Tu n'es pas limité aux hommes et des femmes qui nous entourent. Toi, Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Alors, merci, Seigneur. Merci aussi pour l'Église que tu nous as donnée, Seigneur, parce que nous faisons partie de ce corps que tu as souhaité, que tu as voulu. On est, Seigneur, dans ce corps, on est dans cette armée, on est dans cette famille. Et Seigneur, quel privilège, quel merveilleux privilège d'être dans cette famille que tu nous as donnée, Seigneur, pour nous donner la force aussi quand nous avons besoin de soutien, quand nous avons besoin, Seigneur, de frères et sœurs qui prient pour nous, pour passer des moments difficiles, quand nous sommes devant des choix qui sont vraiment difficiles. Seigneur Jésus, merci pour nos frères et sœurs qui prient pour nous quand nous sommes malades. Quand nous avons des difficultés, Seigneur, quel bonheur. Quel bonheur, Seigneur, même si elle est imparfaite, elle est quand même extraordinaire. Et Seigneur, merci pour l'Église. Merci, Seigneur, parce que ce chemin que nous avons choisi, Seigneur, c'est le chemin de la vie. Seigneur, nous voulons continuer dans ce chemin, Seigneur, de vie. Seigneur, viens-nous en aide pour ces jours, des jours difficiles que nous avons, Seigneur, où il y a ambiance de mort, où il y a des attaques, où il y a tout pour nous dire que nous sommes vaincus, où il y a, Seigneur, cet aveuglement de se dire que tout est fini, qu'on ne sert à rien, que rien n'est possible, que Seigneur en vaut rien. Eh bien, Seigneur, merci de venir éclairer nos yeux. Seigneur, que tu puisses nous donner ces yeux spirituels pour voir ces choses, pour nous les approprier, Seigneur. Pour vraiment, Seigneur, qu'ils fassent partie de notre vie. Qu'on puisse pas seulement en parler, mais les vivre. Seigneur Jésus, donne à chacune ici, Seigneur, de mes sœurs, Seigneur, de vivre cette vie, Seigneur, avec cette libération de Seigneur, cette ambiance de mort où, Seigneur, ils pourraient être. Mais Seigneur, tu leur donnes la vie, Seigneur. Viens les visiter. Tu vois celles, Seigneur, qui sont dans une... Seigneur, un moment difficile, eh bien, je prie pour elles. Seigneur, on prie les unes pour les autres maintenant, Seigneur. Et on te demande vraiment de venir secourir nos sœurs qui sont dans les difficultés, dans l'épreuve, dans la maladie, dans des situations mais vraiment compliquées où, Seigneur, ils sont dans la souffrance, dans leur âme, où ils sont dans, vraiment, Seigneur, cette tristesse. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, les venir en aide. Tu les entoures de ton amour, Seigneur. Vraiment, Seigneur, qu'ils puissent être convaincus que ton amour, Seigneur, est total et permanent et que rien, mais rien, peut nous séparer de cet amour si extraordinaire, Seigneur, qui est venu jusqu'à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies ce soir, Seigneur. Merci pour ce que tu feras pour nous, Seigneur, dans les jours à venir. Et je sais, Seigneur, je sais que pour chacune d'entre nous, tu as des choses, tu as vraiment un plan pour nos vies. Seigneur, nous voulons entrer dans ce plan. Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, nous voulons avancer dans ce plan pour nos vies, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous savons que toutes choses en toi sont bonnes, agréables et parfaites. Que toute la gloire te revient à toi seul, Seigneur. Tu es l'auteur de ces choses. Tu es celui qui a voulu que nous soyons tes enfants. Alors, merci, Seigneur, d'être venu nous chercher. Merci de nous avoir aimés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Gloire à toi, Jésus. Amen.
Alléluia. Merci.